Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les personnes avaient pris des photos d'espaces qu'ils fréquentent assez souvent, des espaces qu'ils fréquentent au quotidien, qui font partie de leur routine. Donc, ils nous ont pas seulement parlé d'accueil, hein, pas seulement d'espaces accueillants, mais aussi de leur bien-être au quotidien dans le quartier. Les espaces les plus documentés, c'était ce qui démontre quand même un attachement aux lieux de loisirs, aux lieux qui leur permettent de connecter avec la nature, puis aussi chez certains, certaines, une fille un peu de vie dans un quartier délaissé, un quartier dont on prend un peu moins soin. Les autres espaces, il y avait aussi des commerces, des cafés, des marchés, où les personnes ont souvent montré que ça nourrissait leurs besoins de sociabilité, de faire des rencontres. Parce que ce qu'on s'est aussi rendu compte, c'est que les personnes ont démontré le manque d'espace pour faire des rencontres avec les résidents et résidentes de leur quartier. Ils déploraient le manque d'espace de sociabilité pour se lier d'amitié, pour développer des liens forts, des liens sociaux forts dans le quartier. Parmi les autres espaces, il y avait aussi, bien sûr, les organismes communautaires où ils sont allés chercher de l'aide. Ces espaces-là étaient plus importants pour les personnes à statut ou encore ceux qui avaient fait du bénévolat, se sont liés d'amitié, qui se sont créés un réseau social dans les organismes communautaires. Ce qui est très important également de mentionner, c'est que les expériences de ces personnes dans les espaces varient en fonction de leurs caractéristiques, de leurs rôles sociaux, de leur mode de vie. Donc, il faut garder en tête que ce n'est pas seulement leur expérience migratoire qui va avoir une influence sur leur appréciation ou leur sentiment d'être accueillis ou non. C'est aussi des personnes qui sont des mères, des retraités, des travailleurs. Donc, leurs besoins et leurs expériences vont varier en fonction de tout ça également.